Ce matin, on va manger un bon lunch spirituel. C'est quoi notre nourriture? Ce qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Jésus a dit, l'homme vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fait que quand vous lisez la Bible, quand vous écoutez quelqu'un lire la Bible, quand vous écoutez quelqu'un enseigner les choses de la Bible, quand tu écoutes des chants qui parlent de versets de la Bible, c'est toute une nourriture qui nourrit ton âme. Puis la Bible a dit, la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Quand tu te nourris de la parole de Dieu, c'est une nourriture, puis ta foi, elle augmente, elle grandit. Tu deviens plus solide dans le Seigneur. Le sujet de mon message ce matin, c'est la marche dans la vérité. Ça, c'est un mot-là, la vérité, là. C'est un grand mot. Moi, je l'ai, la vérité. Il y en a plusieurs qui peuvent affirmer qu'ils ont la vérité. Toutes les religions peuvent dire « j'ai la vérité ». Mais est-ce que tout le monde dit vrai? C'est là la question. Ben, je peux penser que j'ai raison, c'est une affaire, puis je peux avoir tort. Je peux être convaincu d'une chose et être dans l'erreur. Je peux être sincère même dans la chose que je pratique, puis être sincèrement dans l'erreur. C'est pas à cause qu'on croit une chose que c'est la vérité. Puis il y a une pensée aujourd'hui dans le monde présent, c'est le relativisme au niveau religieux, ils appellent ça le relativisme. Ta religion est bonne, pourvu qu'elle te fait du bien, ta religion est bonne. Ça veut dire toute religion, là, c'est relatif, toute religion, si ça te fait du bien, est bonne. Mais en réalité, est-ce de même que Dieu pense? Est-ce la pensée de Dieu? Jésus, quand il est venu, il y a 2000 ans, il est en train de parler à Pilate. Qui ne connaît pas Pilate? Pilate, c'est un gouverneur romain qui régnait dans le temps de Jésus. C'est lui qui avait le droit de vie ou de mort. Parce que vous savez que l'Empire romain avait assujetti les Juifs. Les Juifs étaient comme obligés de payer un tribut, payer une taxe aux Romains. Puis c'est les Romains qui étaient les boss dans le territoire. Puis il y avait des gouverneurs établis sur chaque territoire. Puis dans la région de Jérusalem, Pilate était là. Si tout le monde se rappelle, quand Jésus a été crucifié, il s'est présenté devant Pilate. Puis là, il y a eu la question que Pilate voulait le relâcher, mais le peuple a réclamé que Jésus soit crucifié. Mais le verset que je base ma prédication, c'est une phrase que Pilate a dit puis que Jésus a dit. Jésus, dans Jean 18, 37, 38, là, c'est Pilate qui parle. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Là, Pilate, il voulait savoir pourquoi est-ce que tout le monde voulait crucifier Jésus. Il en avait entendu parler, il n'était pas contre Jésus, Pilate. Parce qu'à plusieurs reprises, il a voulu le relâcher, mais les Juifs ont réclamé que Jésus soit crucifié. Mais Pilate, il dit, tu es donc roi? Là, Pilate cherchait à comprendre. Il voulait savoir c'était quoi la vérité sur Jésus. Il a entendu des affaires, mais c'est important de connaître la vérité. Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Pilate se questionne, Pilate veut savoir pourquoi tout le monde est contre Jésus. Jésus lui répond, « C'est vrai que je suis un roi. Je suis né, je suis venu dans ce monde pour une chose. » Un seul but, pour rendre témoignage à la vérité. Puis Jésus rajoute, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Puis Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Ça, c'est une grande question, parce que tout le monde sur la terre se l'est posé. C'est quoi la vérité? Pourquoi qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Y a-t-il le fruit du hasard, comme la théorie de l'évolution le dit, qu'il y a eu des bactéries qui se sont développées, puis il y a une évolution, puis là, après ça, les animaux, puis après ça, les humains sont sortis des singes. Puis on sera tout de suite aujourd'hui, sans aucune raison, que tout ça sera fait tout seul. Y a-tu un sens à la vie? C'est quoi la vérité? La vraie raison pourquoi je te cite? La vérité, là, c'est plus que juste un concept, là, c'est plus que juste une théorie ou une religion, c'est bien plus qu'une fable que tout le monde sont mis à s'accorder ensemble pour y croire, comme la fable de La Fontaine, un exemple. Là. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Bon, il a inventé une histoire de toutes pièces, qui fait une morale, puis tout le monde adhère. Oui, c'est une bonne fable, on va la garder, on va l'enseigner à nos enfants. Mais cette idée-là, c'est pas la vérité. Des fois, on peut avoir plusieurs idées dans notre tête, puis on dit ça, c'est la vérité, mais en réalité, il faut s'assurer qu'on marche dans la vérité. Si on se pose la question comme Pilate, c'est quoi la vérité? Mais Jésus dit, je suis né, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Jésus est venu pour nous le dire, c'est quoi les vraies choses? C'est quoi? C'est qui le vrai Dieu? C'est qui le vrai chemin? C'est qui le Messie annoncé? C'est qui le Sauveur? C'est qui payera pour toute chose? C'est quoi le chemin à suivre? Jésus est venu pour nous rendre témoignage de la vérité. Là, je vous pose la question, y est-il possible de connaître le vrai sens de la vie? Certainement. Si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez le connaître, le vrai sens, pourquoi qu'on est ici sur la terre, je me demande qu'est-ce qu'on fait dans l'Église aujourd'hui. Parce que, d'après moi, je pense qu'on est tous ici parce qu'on a tous compris c'est à quoi la vérité. On a compris que c'était Jésus qui était la vérité. Puis la parole de Dieu, c'était ça la vérité. Si je vous repose la question, vous n'avez pas de l'air motivé. C'est-tu possible de connaître le vrai sens de la vie, de connaître la vérité de la vie? Oui! On peut l'affirmer qu'on le sait. Pourquoi qu'on le sait? Parce qu'on a cru que ce que Jésus a annoncé, Jésus est venu pour nous rendre témoignage de la vérité. On a cru en ce témoignage parce qu'on est de la vérité, puis on marche dans la vérité maintenant. Bon, vous parlez, avant de parler de l'idée de la vérité, la Bible appelle le Dieu de la Bible le Dieu vivant et vrai. Ça, c'est la première base qu'il faut savoir. Est-ce que tous les dieux sur la terre, ça revient à la même chose? Est-ce que toutes les religions sur la terre, ça revient à la même chose? Est-ce que sont tous vrais? Si je prends un exemple, je vous dis, dans Saint-Rémy, il y a un seul restaurant croque. Le croque burger, là. Une autre personne arrive. Dans Saint-Rémy, il y a deux restaurants croque. Un autre vous arrive, dans Saint-Rémy, il y a trois restaurants croque. Est-ce que parce que trois personnes ont affirmé quelque chose, que c'est automatiquement tout vrai, qu'est-ce que le monde dit? Comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il y en a un, deux ou trois? On va vérifier sur les lieux, puis après ça, on sait qui a dit vrai. Mais dans la vie, c'est la même chose. Il y a plein de religions qui disent « Allah est Dieu ». Les Juifs ont dit « L'Éternel, Yahweh, est Dieu. El Shaddai est Dieu. » Un autre Bouddha, un autre Krishna, un autre Intel, un tel, nommez-les des religions et des sectes. Là, il y en a, je pense, plus de 2000 ou 3000 juste dans la région de Montréal. De toutes les sortes, de tous les mélanges, il y en a que c'est des mélanges de deux, trois religions. Puis il vient même un moment donné que même un club de karaté peut devenir comme une religion. Les joueurs de hockey peuvent devenir une raison de vivre, puis dire c'est ça mes dieux, mes idoles, puis c'est ça je veux suivre, puis je vis que pour cela. À un moment donné, des faux dieux, là, il y en a. Il y en a même encore pire que ça, ils se sont pris des statues en bois, puis ont sculpté une image d'un animal ou d'un humain. Puis là, ils le mettent sur la table, puis là, ils disent « Voilà, mon Dieu! » Puis ils commencent à se prosterner devant ça, puis à adorer ça. Est-ce que parce que tout le monde a dit « Je connais Dieu, puis c'est mon Dieu qui est le vrai, que c'est la vérité? » Non. Il y en a un seul, une seule vérité. Il n'y a un seul Dieu créateur de toutes choses. Les autres, c'est toutes des « Un tel a dit que moi, je voulais servir ce Dieu-là à cette heure, puis c'est celui-là le vrai, mais c'est pas vraiment le vrai. » Si je donne une photo de moi, puis vous regardez ma photo, puis vous parlez à ma photo, même ça, c'est pas vrai. Je suis devant vous, parlez-moi directement à moi. Quelqu'un peut se prendre une photo de moi et commencer à parler à la photo, pensant qu'il est en train de me parler. C'est inutile. Laissons tomber tout ce qui est autour. Concentrons-nous sur le vrai Dieu de la Bible. Il y en a un seul Dieu, puis le Dieu de la Bible l'appelle le Dieu de vérité, le Dieu vrai, le Dieu vivant et vrai. Premièrement, la vérité, là, c'est pas une théorie. Premièrement, la vérité, c'est une personne. Cette personne-là, c'est Dieu le Père. Dans 1 Thessaloniciens 1:9, ça nous dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Dans cette église-là, Thessalonique, c'était des gens qui étaient tournés. À Thessalonique, c'était des gens qui étaient tournés vers des idoles. Ça avait une statue du Dieu de la pluie, une statue du Dieu du soleil, une statue du Dieu du vent, une statue du Dieu de la neige. Mettez-en pour toutes les statues, là, remplies de statues de toutes sortes. Puis ils se sont inventés un paquet de dieux. Puis quand que la parole de Dieu est arrivée dans cette ville-là par l'entremise de Paul, les gens ont abandonné les idoles, toutes les statues, pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Parce que Dieu, là, il est vivant. Il n'est pas juste une statue qui ne parle pas, qui ne voit pas, puis qui ne répond pas, puis qui annonce rien. Dieu, il est vivant, puis ça, on va le voir dans la suite. Il y a un seul et unique vrai Dieu, comparé à tout l'ensemble des idoles de ce monde. Dans Isaïe 44, 6 à 9, ça, on va aller le lire tout ensemble, puis il y a des, si vous voulez souligner des passages dans ce verset-là, il y a des versets clés que Dieu est en train de parler à travers de ce prophète-là. Isaïe 44, 6 à 9. Quand on dit que Dieu y est vivant, c'est parce qu'il parle, il agit, il intervient, il fait des choses. Il n'a pas juste créé la terre et le ciel, v'là 6 000 ans, puis laisser tout aller, puis qu'il est peut-être même mort de vieillesse, ce Dieu-là, puis qu'il n'est plus là, puis que toute la terre roule tout seul. Non. Dieu, il est vivant, il est encore bien présent aujourd'hui. Puis il parle encore, puis il agit encore. Pour ceux qui ont la foi, ben, ils peuvent expérimenter plein de choses avec de voir la main de Dieu dans leur vie. Mais dans cette phrase-là, dans le texte qu'on va aller lire, dans Isaïe 44, c'est un prophète qui était rempli de Dieu, qui était rempli du Saint-Esprit. Là, il a parlé comme si Dieu parlait à travers sa bouche à ce prophète-là. Là, il fait des déclarations pour dire que Dieu lui-même, Dieu qui est en train de parler à travers le prophète, était le vrai Dieu. Puis il donne des raisonnements pourquoi qu'il l'est. Puis vous essayerez de trouver les mêmes déclarations d'un autre Dieu dans ce monde. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, qui a racheté Israël. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Bon, déjà, dans la première déclaration, là, Dieu se présente. Il parle.
C'est-tu Isaïe 44?
Oui, Isaïe 44, 6 à 9. Dans le verset 6, il dit, c'est Dieu qui parle, puis là, il se présente. Moi, je dirais, bonjour, je suis Daniel Poulain, je suis né en 59. Lui, c'est pas ça. Bonjour, je suis l'Éternel, le roi d'Israël, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier, puis en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Là, ça veut dire que le Dieu qui est en train de parler à travers de la bouche de ce prophète-là se déclarait, le premier et le dernier, il se déclarait qu'il était le seul et unique Dieu, qu'en dehors de lui, il n'a pas d'autre. Verset 7. Qui peut se prononcer contre moi? En parlant, y a-t-il un autre Dieu sur la terre qui pourra commencer à dire le contraire de ce que Dieu est en train d'affirmer? Les prédictions. Qu'il l'annonce et qu'il me l'expose depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité. Qu'il annonce donc les événements et aussi ce qui doit arriver. Ça veut dire qu'il y a-tu un Dieu sans terre, un autre Dieu? Dieu dit qu'il n'y en a pas d'autre, mais c'est arrivé dans une autre religion qu'il y a un Dieu qui a annoncé l'avenir, puis que les choses se sont accomplies telles qu'ont été écrites dans ses écrits. Y a-t-il une autre personne qui s'est comparée à Dieu puis qui a dit que c'est non, c'est moi qui est Dieu puis toi t'es le faux Dieu, tu sais? Il n'y a personne qui peut contester contre la parole de Dieu. Le seul livre qui contient des prédictions réelles et vues de nos yeux, puis que tout le monde peut les lire, là, puis que tout le monde peut avoir vu dans d'autres versets l'accomplissement, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Dans la Bible, on a les déclarations de Dieu et les accomplissements de ses promesses, puis de l'accomplissement de ses prophéties, puis encore d'autres choses qui vont arriver bientôt, d'après la déclaration de ces dieux-là. Le Dieu, il met au défi un autre Dieu de venir devant lui, puis de se prononcer, puis d'annoncer les choses à venir. Il n'y en a pas. Verset 8, « N'ayez pas peur, ne tremblez pas. » Ne te l'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncer? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui façonnent des statues ne sont tous que néants, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Ils sont leurs témoins, ils n'ont ni la vue, ni la connaissance, et aussi seront-ils honteux. Dieu est en train de mettre au défi de trouver un autre Dieu qui annonce quelque chose. Puis là, il est en plus en train de déclarer que tous ceux qui se font des belles statues, aussi belles qu'ils peuvent être ces statues-là, puis qui disent ça, c'est leur Dieu. Mais il dit, les gens qui servent ces statues-là, ils sont comme cette statue-là. Ces statues-là ne voient rien, n'entendent rien, ne parlent pas, ils annoncent pas l'avenir, ils annoncent pas les choses qui vont arriver, puis ils protègent pas, puis ils assurent rien. Puis il dit, les gens qui servent ces statues-là, ils vont être honteux. Quand ça? Mais quand qu'on va mourir. Parce que la Bible, elle dit qu'on va aller rencontrer le vrai Dieu. Il y a un verset qui nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il n'y en a qu'un seul Dieu, ce Dieu-là qui a créé toute chose, puis il ne donne pas sa gloire à aucun autre. Un autre passage qui parle dans la même idée que ça, c'est Isaïe 45, les versets 18 à 22. C'est encore le prophète Isaïe, dans le chapitre suivant, puis il est encore en train de dire qu'est-ce qui est comme étant Dieu, ce Dieu-là. Verset 18. C'est encore une autre belle place à souligner des versets. Car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux. Lui, le seul Dieu, qui a façonné la terre. Il l'a formée. Lui qui l'a affermie. Il ne l'a pas créée vide. Il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, puis il n'y en a point d'autre. Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé, dans un lieu ténébreux de la terre. J'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste et je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont pas de connaissance, ceux qui portent le bois de leur statue et qui intercèdent auprès d'un Dieu qui ne peut les sauver. Annoncez-le et présentez vos arguments. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a fait entendre cela depuis les origines et depuis lors les a annoncés? N'est-ce pas moi l'Éternel? En dehors de moi, il n'y a point de Dieu, un Dieu juste et qui sauve. À part de moi, il n'y en a aucun. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, les confins de la terre, car je suis Dieu, puis il n'y en a point d'autre. Dans ces déclarations-là, Dieu est en train de parler qu'en dehors de lui, il n'y a personne qui a créé la terre. Puis il dit, il l'a pas créé pour qu'elle reste vide, il l'a créé pour qu'elle soit remplie d'habitants. Puis depuis le début de la création, Dieu a commencé à parler à ses créatures. Vous posez les questions, c'est quoi qu'il leur a dit? Allez lire la Genèse, vous allez voir l'histoire de la création, vous allez voir Dieu en train de parler à Adam et Ève. Les premiers. Après ça, tu continues à lire le livre, tu vois Dieu qui parlait aux descendants d'Adam et Ève. Tout le monde dans l'histoire, plein de monde ont eu des contacts avec ce Dieu-là. Puis il y a des choses qui ont été annoncées par ce Dieu-là et ils ont eu leur accomplissement. Dieu, il n'a rien fait en cachette. Dieu s'est arrangé que tout ce qu'il a dit soit écrit et on a une possibilité aujourd'hui de vérifier cela pour voir si c'est vrai. Est-ce que Dieu nous compte des menteries? Non. Dieu est le seul vrai Dieu, unique et vrai, le seul qui est digne d'être servi et obéi. Là, il nous dit, tournez-moi vers moi. Il fait un appel à tout le monde. Vous voulez avoir des preuves que je suis vivant, dit Dieu. Venez vers moi, invoquez-moi, et je répondrai. Dans le Nouveau Testament, ça dit, celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Si quelqu'un a un intérêt à dire, je veux connaître la vérité, je veux connaître le vrai Dieu, où est-ce que je vais le trouver? Mais on peut leur dire, approche-toi de l'Éternel des armées, le Seigneur, Créateur de toutes choses. C'est lui qui va te répondre puis il va te donner des preuves qui est là. On va lui donner une Bible. Puis ça, on va le voir pourquoi qu'on va lui donner une Bible. La Bible déclare aussi que Jésus est aussi issu du Dieu de vérité. Parce que là, on vient d'avoir qu'il n'y en a qu'un Dieu. C'est le Dieu véritable et vrai. C'est le Dieu vrai et vivant qu'on voit dans différentes choses. Mais Jésus, il vient de là. Il y a un verset dans Jean 16, 28, Jésus est en train de parler. Il dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais vers le Père. Dans Jean 16, 28. Jésus, il est sorti du Père. Jésus est sorti du Dieu de vérité. Jésus, il dit, il est venu dans le monde, le premier verset, j'ai lu au début, pour rendre témoignage de la vérité. Puis là, il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Si vous êtes des gens qui veulent connaître la vérité, tournez-vous vers Jésus. Jésus, dans d'autres versets, ça nous dit qu'il était au commencement, dans Jean 1, 1 à 4. Il était au commencement, il était avec Dieu, il était Dieu, il a créé toutes choses, tout ce qui a été fait par Jésus, et rien de ce qui a été fait sans Jésus. Jésus est la lumière du monde. Il n'est pas non seulement venu du Père comme étant une créature créée, non. Il est le Dieu créateur qui a créé toute chose. Ça veut dire, avant que la première chose qui a été créée, savez-vous c'est quoi? Avant de créer le ciel et la terre puis l'univers qu'on voit, le monde matériel, là, il y a eu le monde spirituel de créer. Où ce que, il y a un endroit, là, ce que tout le monde appelle le ciel, où ce que, il y a des milliards d'anges, il y a des séraphins, il y a des chérubins, des séraphins, il y a des êtres vivants, il y a des vieillards, il y a toute une multitude de créatures de créer qu'on appelle des anges ou des archanges, ou peu importe, là, il y a des chefs d'anges. Puis ça, c'est la première des créations. Mais avant que tout soit créé, là, avant ça, Jésus était là auprès de son Père, puis il dit que toutes choses ont été créées par lui. C'est lui qui est le créateur, même du monde invisible. Après ça, il a créé le monde visible qu'on voit présentement. Là, Jésus est parti de là, après avoir tout créé ce monde visible-là, où ce qu'on est présentement. Puis il dit qu'en dehors de lui, il n'a pas d'autre Dieu. C'est lui qui a créé toute chose pour qu'elle soit habitée, puis il invite toutes les gens à lui parler. Jésus est sorti du Père, il est venu dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité, puis il est venu nous dire, c'est quoi la vérité? C'est qui le vrai Dieu de vérité? Jésus, après ça, il a parlé à tout le monde en disant, dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On cherche la vérité, mais la vérité est annoncée par Jésus. Tu veux rencontrer le Dieu de vérité, il faut que tu tournes vers Jésus. Puis t'écoutes. Jésus dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Cherche où est la vérité, tourne-toi vers Jésus. Il est l'envoyé pour venir rendre témoignage de la vérité. Il n'y a pas de longue distance, tu peux y parler, c'est en direct ligne, puis direct, tous les jours. Non, puis il est toujours bien présent tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ses oreilles sont attentives à nos prières. En résumé, là, Dieu est la vérité. C'est pas une théorie, la vérité. C'est Dieu qui est la vérité. Puis Jésus est aussi la vérité. 1 Jean 5, 20, 21, ça dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu y est venu. Il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Hallelujah! On est en Jésus-Christ dans le Dieu véritable. Il est venu pour nous le faire connaître, puis maintenant on est en lui grâce à Jésus. Maintenant, là, on continue à développer l'idée là, que Dieu le Père est la vérité, Jésus est la vérité, Jésus est venu dans ce monde pour nous annoncer la vérité. Ça veut dire que la vérité est aussi dans tout ce qui provient de sa bouche, de sa parole. Dans Jean 1, 17, ça nous dit, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Moïse, c'est la loi qui a apporté. Jésus est venu apporter la vérité. Il est venu enseigner c'est à quoi les vraies choses. Savez-vous que dans la Bible, là, juste dans les évangiles, là, il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a 85 fois qu'on retrouve le verset « En vérité, je vous le dis ». Jésus a répété ça 85 fois. Ça, c'est les fois qui nous ont été écrits. Parce qu'on le sait que, comme Jean il a dit, si on a réécrit tout ce que Jésus a dit puis qu'il a fait, on ne pense pas que la terre sera assez grande de contenir tous les livres qu'on aurait pu écrire là-dessus. Mais dans le bout qu'ils nous ont écrit, là, dans la portion qui était nécessaire qu'on sache, là, 85 fois, à chaque fois que Jésus s'exprimait, il dit « en vérité, je vous le dis ». Ou la phrase était « je vous le dis en vérité ». Jésus n'ouvrait pas la bouche pour compter des mensonges. Jésus, il venait du Dieu de vérité, puis il était venu pour rendre témoignage de la vérité, puis il s'attendait à ce que les gens suivent les vérités annoncées de sa bouche, puis 85 fois, quand il ouvrait la bouche, il disait « en vérité, je te le dis ». Ou « je vous le dis en vérité ». Jésus n'avait que de la vérité qui sortait de sa bouche. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, qui fait encore partie de ce qu'on sait déjà, mais c'est bon de se le rappeler, la Bible enseigne aussi que le Saint-Esprit, on peut l'appeler l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de vérité, il vient aussi du Dieu de vérité. Amen! Dans Jean 15, 26, que ça nous déclasse là. Quand sera venu le Consolateur? Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Quand Jésus déclare les choses, c'est la vérité. Quand il parle du Consolateur, c'est celui qui était pour nous consoler, notre avocat, notre aide, celui qui va être avec nous autres tous les jours. Il parle du Saint-Esprit. Quand sera venu le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père. Le Saint-Esprit provient du Père, il provient du Dieu de vérité, le Saint-Esprit. Puis il l'appelle dans ce verset-là, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Fait que le Saint-Esprit travaille depuis 2000 ans à rendre témoignage que Jésus est le chemin de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Puis que si tu passes par lui, tu vas aller au Père. Puis tu ne peux pas aller au Père sans passer par lui. Puis la vérité maintenant, là, elle nous est enseignée par l'Esprit de vérité. Parce que le Saint-Esprit, Jésus, Dieu le Père, c'est les trois qui forment le Dieu de vérité qui a créé toute chose. Puis ça nous dit, puis si vous voulez savoir la preuve que le Saint-Esprit était là aussi au début de la création, ça dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Le Saint-Esprit était déjà là, puis lui tout, quand toutes choses ont été créées. C'était pas une nouveauté. De toute éternité, les trois étaient en un seul Dieu. Puis ce Saint-Esprit-là, il continue à nous enseigner les vérités. Il prend de ce que Jésus a enseigné, qui étaient les déclarations de vérité, puis il les fait comprendre, pour qu'on comprenne, parce que, humainement parlant, c'est au-delà de notre capacité intellectuelle. Jean 16, 13, elle nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous révéler des nouvelles choses. Il s'en tient à ce qui nous a été annoncé, de ce qui nous a été dit par la bouche de Jésus. Il prend de ce qui est à Jésus, puis il nous l'annonce. Il ne parle pas de lui-même comme s'il est pour inventer des nouvelles choses. Il va prendre ce qui a été dit, puis il nous le ramène. Puis il nous explique, puis il nous fait comprendre. C'est cet esprit-là qui nous révèle qu'est-ce qui est le vrai Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y a des effets bénéfiques dans la vie d'une personne lorsqu'une personne se tourne vers le Dieu de vérité et vers les paroles de la vérité qui proviennent de la Bible, les paroles de Jésus et les paroles que l'Esprit-Saint a révélées aux apôtres et aux prophètes? Est-ce qu'il y a des avantages ou des effets bénéfiques qu'on peut recevoir si on se tourne vers ce Dieu de vérité-là? Contrairement, si tu tournes vers un idole, il n'y a aucun effet bénéfique que tu peux avoir. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne parlent pas. Ce n'est même pas un objet vivant. C'est une statue qui, quand tu déménages, tu es obligé de la prendre, ta statue, puis la choirer avec le reste de tes meubles parce qu'elle n'est pas capable de marcher, puis elle n'est pas capable de rien faire. Aucun effet bénéfique de se créer une statue ou une image. Mais le Dieu qu'on sert, le Dieu de vérité, si on se tourne vers lui, y a-t-il des effets bénéfiques? Si on se tourne vers le Dieu vivant et vrai, si on se tourne vers la vérité, oui, il y en a plein d'effets bénéfiques. Ouais. La première, on en voit que plusieurs, la vérité nous scelle du Saint-Esprit. Si tu tournes vers la vérité, là, tu vas recevoir un sceau qui est le sceau du Saint-Esprit. C'est un étampe que Dieu m'a situé pour dire « propriété privée de Dieu le Père », « propriété privée du Dieu véritable », « propriété privée du Dieu vivant et vrai ». Éphésiens 1, 13 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Quand on parle de scellés, c'est un sceau, c'est un étampe. Dieu vous a étampé. Vous avez cru en l'Évangile, il appelle cet Évangile-là la parole de vérité. Après avoir cru en parole de la vérité, que Jésus est venu sur la terre, il venait annoncer la vérité, Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang, il est ressuscité le troisième jour, puis maintenant, tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant reçoivent le pardon des péchés gratuitement comme étant un cadeau qu'il vous donne, puis il vous donne un sceau dans le front. Propriété privée de Dieu, c'est le sceau du Saint-Esprit. Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Ça, c'est l'Évangile de vérité. C'est ça la bonne nouvelle, de pouvoir être pardonné de nos péchés et de savoir qu'on a déjà la vie éternelle gratuitement. On est déjà inscrit dans le livre de vie maintenant. Alléluia! Gloire à Dieu! Il y a d'autres, ça c'est un bel effet bénéfique. Il y en a d'autres effets bénéfiques de recevoir la vérité. La Bible nous dit que si tu as l'amour de la vérité, ça va te sauver. Puis ça va te garder. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 10. À la deuxième partie du verset, là, ça dit « L'amour de la vérité pour être sauvé. » Si tu as l'amour de la vérité, tu vas être sauvé. Où est-ce qu'elle est la vérité? Mais la vérité, c'est Dieu le Père. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. La parole de Dieu est la vérité. Si tu te tournes vers la vérité, puis tu as l'amour de la vérité, tu seras sauvé. Puis en plus de ça, ça va te garder. Parce que le début de ce verset-là, ça parle d'une puissance d'égarement qui va venir dans la fin des temps pour toucher ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Fait que sachez aujourd'hui que si vous êtes en amour avec la vérité, vous aimez Dieu, vous aimez Jésus, vous aimez le Saint-Esprit, vous aimez la parole de Dieu. Si vous avez l'amour de la vérité, Dieu va vous garder. Dieu va vous protéger. Dieu va vous fera pas, il va vous empêcher de tomber dans l'esprit d'égarement qu'il va avoir dans la fin des temps. 2 Thessaloniciens 2, au verset 10, mais à la deuxième partie du verset. L'amour de la vérité pour être sauvé. Voulez-vous savoir d'autres effets bénéfiques de la vérité? La vérité, elle sanctifie. Jean 17, 17. Jésus est en train de parler à son Père. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On a deux belles déclarations dans ce verset-là. Premièrement, la parole de Dieu est la vérité. Quand je disais au début, l'homme vivra pas une de pain seulement, mais là, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, où est-ce qu'on les retrouve, ces paroles-là, c'est dans la Bible. La Bible est la parole de vérité, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis là, dans ce verset-là, Jésus est en train de dire, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ça veut dire que si une personne s'approche de la vérité, s'approche de Dieu, s'approche et reçoit le salut qui est offert gratuitement, il y a un processus de changement et de transformation qui commence dans sa vie, puis tu commences à être sanctifié. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi être le mot sanctifié, ça veut dire consacré, mis à part. Là maintenant, tu n'appartiens plus à plusieurs affaires, en même temps tu appartiens à une chose. Tu appartiens à Dieu, tu es un objet. Pareil comme si on regarde dans certaines religions, ils ont sanctifié certains ustensiles pour leur service dans leur temple ou dans leur culte, puis ils ont des, mettons, un sacrifice à faire. Mettons, le peuple juif avait un sacrifice à faire. Tous les objets qui servaient pour célébrer les sacrifices, il y avait des ustensiles, il y avait l'autel qui était où ce qui présentait le chaud, le parfum, tout ce qui faisait partie des objets de culte, c'était des objets sacrés. C'était des objets consacrés à leur Dieu puis au service de ce qu'il y avait à faire. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous êtes des personnes consacrées à Dieu. Vous êtes la propriété privée de Dieu, vous appartenez à Dieu, votre vie est de vivre pour Dieu. Puis si tu t'approches de la vérité, Dieu a commencé un œuvre à te sanctifier. Parce que la parole de Dieu, quand tu la laisses rentrer dans ta vie, c'est une parole qui est vivante, la Bible a dit dans d'autres passages, c'est une parole qui pénètre ton âme, elle pénètre ton esprit, à pénètre jusque dans tes jointures, dans ta moelle, puis elle juge les sentiments des pensées des cœurs. Puis un autre passage, ça dit que la parole de Dieu, c'est une parole incorruptible, c'est une parole qui régénère, c'est une parole qui transforme des vies. Fait que plus tu vas te laisser rentrer la parole de vérité dans ta vie, plus que ta vie change, plus que tu as un désir à vouloir vivre pour Jésus, vivre pour la vérité, commencer à parler de la vérité, puis à te laisser changer, puis à abandonner les choses qui ne font pas partie de la vérité dans ta vie, puis de commencer que ta vie soit de plus en plus une vie qui appartient à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit, puis on veut être possédé par l'Esprit de Dieu. On veut qu'il nous mène, qu'il nous conduit, qu'il nous guide, qu'il nous enseigne, qu'il nous bénisse, qu'il nous remplisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous environne, qu'il nous donne tous ses dons, qu'il nous donne tout ce qu'il y a comme cadeau. Puis plein d'autres promesses qu'il a promis à propos de nos besoins qu'on pourrait y faire connaître, puis qui répondra à nos prières. Gloire à Dieu! Il y a d'autres choses bénéfiques que ça peut faire, puis il est encore un petit peu dans la même continuité de la sanctification. Quand tu laisses rentrer la vérité dans ta vie, tu vas goûter des délivrances et des libérations. Jésus l'a dit. Dans Jean 8, 31, 32, Jésus a parlé là, dans ce verset-là à des gens qui disaient qu'ils avaient la foi en Jésus. « Oh, nous autres, Seigneur, on te suit, on croit que tu es le Sauveur. » Jésus, il les a regardés et les a dit, on commence au verset 31, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » C'est pas suffisant juste de savoir que Jésus, c'est le Messie, le Oin, le Dieu de vérité. C'est pas suffisant juste de le savoir. Si tu demeures dans sa parole, qui est la parole de vérité, la parole puissante qui régénère et qui nous sanctifie. Si tu demeures dans sa parole, tu es vraiment un disciple. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Fait que si tu as découvert que Jésus, c'est le Dieu de vérité qui est venu pour nous, du Père, puis qui est venu nous enseigner la vérité, tu t'es tourné vers lui, puis tu commences à dire, oui, je crois. Maintenant, Jésus dit, demeure dans ma parole, pénètre dans ma parole, laisse la parole pénétrer ta vie, commence à mettre en pratique, à vouloir vivre selon la parole. Puis là, il dit, là, tu vas connaître la vérité. Tu peux savoir que Jésus est là, puis que sa parole est vraie, puis pas l'avoir resté rentré, t'es pas encore dans la vraie connaissance de la vérité. Si tu veux être dans la vraie connaissance de la vérité, faut que tu laisses rentrer Jésus dans ta vie, puis faut que tu laisses aussi rentrer sa parole. Puis en demeurant dans sa parole, tu vas connaître la vérité, ta connaissance va s'approfondir, tu vas rentrer dans la connaissance, la vraie connaissance de Dieu. Puis là, il dit là, la parole, là, elle va te rendre libre, elle va t'affranchir, elle va te délivrer, elle va te transformer. Tes péchés vont tomber. Tu vas être délivré de ce qui t'entoure, de ce qui te tient captif. Tu vas goûter la puissance de la parole de vérité. Il y a d'autres effets bénéfiques. La vérité nous permet de revêtir l'homme nouveau. Parce que la Bible, elle dit, quand t'arrives, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais il y a un critère pour que les choses deviennent nouvelles. C'est pas suffisant d'avoir laissé le Saint-Esprit entrer. Pourquoi? Parce que si tu veux pas écouter qu'est-ce qu'il te dit, après, ça sert à quoi? C'est comme si t'enterres le serviteur, la parabole du serviteur, il enterre sa vie, il avait reçu le talent de Dieu. Mais il l'a enterré. Il ne veut pas écouter. Mais nous autres qui veut écouter, ça dit dans le verset Éphésiens 4, 24, Paul est en train de nous dire de revêtir l'homme nouveau. C'est quelque chose qui doit se rajouter par après. La nouvelle naissance, là, t'amène à être une nouvelle créature. Mais il faut que tu revêtes cet homme nouveau-là. C'est quelque chose qui doit s'ajouter dans la suite de ta vie. Puis cet homme nouveau-là, il est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire, si tu vas à Jésus, tu le laisses entrer dans ta vie, puis là, tu écoutes sa parole, puis tu l'écoutes, puis tu laisses le Saint-Esprit te parler, tu es en train de revêtir l'homme nouveau, ta vie va changer. Les gens, quand ils vont te voir aller, ils vont dire ça, c'est pas le Daniel Poulain que j'ai connu avant qui connaît Jésus. Jouer, qui est plus pareil comme avant. Il est rendu une nouvelle personne. Il aime des nouvelles affaires, puis il aime plus ce qu'il aimait avant. Nous autres, avant, on était ensemble, puis il aimait ça, fumer de la drogue avec nous autres. Pour aujourd'hui, il aime plus ça, fumer de la drogue. Pourquoi qu'il aime plus ça? Parce que le nouvel homme qui est en lui, il a laissé le Saint-Esprit le revêtir de ce nouvel homme, puis maintenant, il réagit en nouvelle personne. En une personne qui aime Jésus, il réagit comme une personne qui veut suivre Jésus, puis sa vie change, il est libéré par la parole de vérité, parce que la parole fait une œuvre de puissance dans sa vie. Il est en train de revêtir l'homme nouveau. Gloire à Dieu! Un autre effet bénéfique, là je vais parler pour ceux qui ont abandonné un jour la vérité, ceux qui l'avaient déjà reçu, la vérité. Sache que tant que tu es vivant, tu peux revenir à la vérité. Puis si tu reviens à la vérité, ça va te sauver de la mort, puis ça va couvrir toutes tes fautes. Il y a un verset dans Jacques 5, 19 qui nous déclare ça. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, là, on voit que ça s'adresse à quelqu'un qui est à un frère, puis il s'est éloigné de la vérité. Et qu'un autre l'y ramène. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que même si tu es éloigné, tu peux revenir. Gloire à Dieu. Sache que celui qui ramène un frère de la voie où il s'est égaré, il sauve un homme de la mort, puis il couvrira une multitude de péchés. Gloire à Dieu. Dieu a toujours ses bras ouverts pour réaccueillir ses enfants. ceux qui ont déjà connu la vérité puis qui l'ont abandonnée, il y a une possibilité, s'ils n'ont pas traversé la voie de non-retour, il y a un péché pour lequel on le sait qu'il y a, plus qu'un, il y a un ou deux qu'on voit, mais c'est de cracher sur le sang de Jésus, puis de dire que le sang de Jésus, c'est infâme, puis il foule aux pieds, puis il blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable. Puis il y a aussi un autre passage dans l'Apocalypse qu'on voit, que ceux qui vont recevoir de la marque de la bête, même si tu croyais en Jésus, t'es fait, tu peux pas avoir de repentance. Mais l'idée, si t'as pas encore renié, quand je parle du Saint-Esprit, de blasphémer du Saint-Esprit, puis de dire « L'Esprit qui est en Jésus, c'est un démon », c'est ça que le monde disait. La cause qu'on déclarait ça, c'est ça que Jésus leur a dit dans Marc 3, à la fin du chapitre. Jésus dit « C'est à cause qu'on dit que l'Esprit qui est en Jésus est un esprit impur. C'est ça qui est le péché impardonnable. » C'est clair, je ne cherchais pas d'autre chose. La seule raison, moi, je pense que quelqu'un en arrive à là, il faut vraiment qu'il soit complètement égaré dans sa pensée, puis qu'il n'y a plus d'amour pour Jésus, puis pour le Saint-Esprit, puis qu'il aille jusqu'au point de confesser que l'Esprit qui est en Jésus, c'est un démon. Mais là, il faut vraiment que tu aies rendu loin dans ta vie, ou de le faire parce que tu es menacé de le faire, puis qu'on te force de le faire, puis là, tu le fais parce que tu es obligé, sinon tu perds la vie. Il y en a plein de chrétiens qui ont passé par « Tu renies Jésus ou tu meurs ». Puis il y en a encore aujourd'hui de cela. Puis les gens, ils préfèrent mourir que de renier le Sauveur qui est mort pour eux autres. Fait que... Non. Juste dire que Jésus, tu y crées pas, c'est pas ça. C'est qu'il te force à blasphémer contre le Saint-Esprit. Il y a tout, ça, c'est juste pour dire que c'est la voie de non-retour. Mais si tu peux avoir abandonné la vérité, avoir tourné dans ta vie pour vivre dans le péché comme avant... Là, t'as quitté le chemin de la vérité pour t'en retourner dans ton ancienne vie. Sache qu'il y a encore une possibilité de te ramener. Puis si quelqu'un te ramène, tu couvres une multitude de péchés puis tu sauves un homme de la mort. Dieu est prêt d'accueillir ses enfants prodigues. La parabole de l'enfant prodigue, c'était ça, là. Oui?
Oui, c'est ça que Pierre a fait avant.
Oui. Mais lui, il a renié de le connaître. Il n'a pas dit qu'il ne le reconnaissait plus comme le Sauveur. Il y a une grosse différence. Il a juste nié de le connaître. Ce n'est pas le péché impardonnable. C'est quoi que je viens juste de vous dire? T'as quoi? Hein? Ouais, celui qui ramène un frère de la voie, il s'est égaré, il sauve un homme de la mort, il couvre une multitude de faux. On continue. Parce qu'il y en a qui pensent que mon oncle qui a accepté Jésus, là, puis il a abandonné, il est retourné dans sa vie, puis là, on ne prie plus pour lui. Non, continue à prier pour lui. Il peut revenir. Tant que tu n'es pas mort, tu es encore en espérance de pouvoir retourner à Jésus, d'être pardonné. Si tu meurs dans tes péchés, là, il n'y a plus rien à faire. Priez plus. Priez pas pour ceux qui sont déjà morts. Mais s'ils sont vivants, vous pouvez prier pour eux autres, pour que Dieu les amène à la vérité ou il les ramène à la vérité. Faut pas voir ça comme une offense. Oh, il m'a offensé, j'y ai parlé de Jésus, là, puis là, il a ri de moi. J'y parle plus. Mais là, non, parce que dans 5 ans, il peut se convertir et amener 300 personnes au salut. L'idée, continuez d'espérer que tous ceux qui sont autour de vous vont venir à Jésus. Il y a d'autres effets bénéfiques avec des versets qui parlent que si tu tournes vers la vérité demeure en toi éternellement. Dieu, le contrat qu'il fait avec ses enfants, c'est qu'il veut demeurer éternellement avec eux. Si tu ne le renies pas, Jésus ne te reniera pas. Si tu es infidèle, il va demeurer fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Si tu le renies, il va te renier. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas là pour le renier. Mais si on n'est pas là pour le renier, ça veut dire qu'on aime ça, suivre Jésus. Si tu aimes ça, suivre Jésus, tu as le droit de croire que Jésus va te garder dans la vérité jusqu'à temps qu'il vienne te rechercher. 2 Jean 1-2, il nous dit, « À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. » Quand tu reçois Jésus dans ta vie qui est la vérité, puis le Saint-Esprit, puis la parole de vérité, mais ça va demeurer en toi pour l'éternité. T'as pas besoin d'avoir peur. Là, j'ai accepté Jésus sur la terre. Puis là, je suis pas sûr si au ciel, je vais être en cours avec Jésus. Oui, Si tu as accepté Jésus, puis tu marches avec Jésus sur la terre, Jésus te reniera pas rendu l'autre bord. Tu es déjà avec lui. C'est si tu as perdu ce contact-là, puis tu as rejeté Jésus, là, c'est sûr que là, attends-toi pas qu'il te recueille si tu n'es pas revenu à lui. Mais si tu ne l'as pas renié, tu es encore avec, tu peux avoir l'assurance, puis continuer à dire, Jésus est en moi présentement, je marche dans sa parole, puis même que je meurs, je suis encore avec lui, puis je vais demeurer éternellement avec lui. Puis merci Seigneur, c'est une promesse qui est garantie que rien ne peut nous séparer de lui. Rien de ce qui est autour ne peut te séparer de lui. En autant que tu ne te laisses pas séparer, en autant que toi, tu ne décides pas de retourner en arrière, il n'y a rien qui peut te l'enlever. Même si le diable viendra à côté de toi et dit, « Là, je t'enlève ton salut. » Tu ne peux pas rien enlever. Dieu te l'a déjà donné, puis Dieu n'a pas l'intention de te l'enlever. Le diable ne peut pas rien faire. Ou même si ton conjoint ou un des membres de ta famille, allez, là, je ne veux plus que tu sois chrétienne, je ne veux plus que tu aimes Jésus, puis je ne veux plus que tu serves Jésus, puis je t'enlève ton salut. Il ne peut pas te l'enlever, il n'y a rien qui peut te l'enlever. Dieu te l'a donné, puis Dieu ne te l'enlèvera pas en autant que tu ne le renies pas. Il te l'a donné, c'est tatoué, marche avec, c'est un cadeau qu'il t'a donné, que tu ne mérites pas. C'est un cadeau gratuit. Par la grâce, c'est un cadeau, une grâce, c'est un cadeau. Il te l'a donné gratuitement, puis là, il marche avec moi, puis là, tu peux être pleinement convaincu en ta vie. Je suis avec le Seigneur, j'ai la vie éternelle, mon nom est inscrit dans le livre de vie, je m'en vais au ciel, gloire à Dieu, on va vivre éternellement. C'est déjà une assurance. Puis Paul l'a dit lui-ci, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni les autorités, rien peut me séparer de l'amour de Dieu que j'ai en Jésus-Christ. Lui était pleinement convaincu de ce qu'il y avait. Et je vous pose la question, l'êtes-vous, vous aussi, ce matin, convaincu de ce que Dieu vous a donné? Si vous êtes en amour de la vérité, vous l'avez. Gloire à Dieu. Ça n'a pas rapport à vos performances chrétiennes. Ça n'a pas rapport parce que vous êtes un chrétien à 90% sanctifié, vous êtes plus sauvé que l'autre qui est à 24. Non. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu es dedans ou tu ne l'es pas. Il y a un autre endroit, puis ça, on peut leur prêcher dans un autre enseignement. Il y a tous des versets qui expliquent où est-ce que les gens vont s'ils n'ont pas passé par Jésus. Ce qu'il faut comprendre, Jésus dit bien, « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire, personne ne va se retrouver au ciel par hasard. Il dit, non, qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Il n'a pas compris que c'était par Jésus qu'il est sauvé, puis il pense d'arriver au ciel par hasard. Pas personne ne va arriver au ciel par hasard. Si tu arrives au ciel, c'est parce que tu as passé par Jésus. Tu peux être surpris de la beauté, de la grandeur du ciel-là, oui, mais si tu étais déjà sûr qu'il y allait parce que tu avais mis ta foi en Jésus, ben c'est ça que Jésus veut te donner, la vie éternelle. Puis si tu passes à lui, c'est lui qui est le seul sacrifice offert par Dieu pour qu'on puisse être pardonné. Sinon, si tu passes pas par Jésus, tu n'es pas pardonné. Tu es encore dans tes péchés. Tu as une liste de péchés, une liste avec toutes tes factures, là, une facture à payer, puis c'est toute la liste de tes péchés, puis il faut que ça soit payé par quelqu'un. Puis si tu n'as pas passé par Jésus, puis que Jésus paye, qu'il marque ta facture, payé par Jésus, si tu n'as pas passé à Jésus, puis que ça soit payé par Jésus, c'est toi, il faut que tu payes tes péchés, puis tu es séparé de l'éternité, toute l'éternité, tu es séparé de la gloire de Dieu, de sa présence, de la vie même. Il y a toute une belle étude là-dessus, qu'un jour, si Dieu le permet, on va l'apporter. Bon, je vais essayer de faire vite, là. L'Église, là, tantôt je vous disais, là, c'est quoi la maison de Dieu aujourd'hui, là? Il y en a une maison de Dieu dans le Nouveau Testament. Quand on dit « Je suis dans la joie », quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », c'est une chanson qu'on chante, qu'on aime ça chanter, bien où sa maison?
C'est notre cœur.
C'est notre cœur, mais elle est définie comme étant plus que juste notre cœur, dans un verset. 1 Timothée 3,15 nous dit « Mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Paul, il veut qu'on sache comment se conduire dans la maison de Dieu. Et où sa maison? Qui est l'Église du Dieu vivant. La maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. Le mot « Église », c'est l'Assemblée. C'est pas la bâtisse qui est une Église. C'est le rassemblement des gens qu'il y a dedans qui est l'Église. Puis la maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. L'assemblée des gens qui marchent en communion avec le Dieu vivant, ça, c'est l'Église. Chacun de nous, on est une pierre vivante, joint pour former la maison de Dieu. Quand on se réunit le dimanche, on est dans la présence de la maison de Dieu, qui est l'assemblée de tous les frères et sœurs. Puis ça, là, ça a un but, ça. Dieu, quand il crée toutes choses pour un but. Les rassemblements qu'on a, comme là aujourd'hui, là, ça a un but. Qu'on devienne une colonne, tout ensemble, là, qu'on devienne une colonne et un appui de la vérité. C'est ça que ça dit dans le texte. L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Là, tantôt, je vous explique depuis tantôt, c'est quoi la vérité, là? La vérité, c'est le Dieu de vérité révélé par Jésus, le Saint-Esprit, sa parole. Puis là, il dit maintenant que l'Église, c'est la maison de Dieu, puis cette Église-là est devenue la colonne, l'appui de la vérité. Ça veut dire que l'Église, présentement, est la colonne vertébrale de, dans un sens figuré, là, la colonne vertébrale du corps de Jésus qui est sur la terre, qui est encore en train d'agir, c'est véhiculé à travers de nous autres, la vérité. On est rendu l'appui de la vérité. On est ceux qui parlent pour la vérité, qui annoncent la vérité. Puis maintenant, quand il dit on est l'appui, c'est qu'on n'est pas contre. Le contraire de, on t'appuie quelque chose, tu es d'accord avec une chose, tu l'appuies, tu en parles positivement, tu n'en parles pas négativement. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un sur la terre qui doit continuer à parler positivement de la vérité, c'est l'Église qui est l'appui de la vérité. L'Église, c'est le regroupement de chacun de nous autres. On est maintenant des gens représentant la vérité sur la terre. On est des noyaux, on est une cellule. Dieu nous a choisis pour que nous marchions par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2, 13, la fin du verset. Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. On est des gens choisis par Dieu, sauvés par Dieu, sanctifiés par l'Esprit, pour qu'on marche par la foi en la vérité. Il veut qu'on garde une ferme confiance dans la vérité. J'achève. Dieu se charge des hommes et des femmes qui professent la vérité, qui parlent de la vérité, qui annoncent la vérité. 2 Timothée 2, 15. Paul est en train de dire à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Dieu est en train de dire à l'Église dans ce verset-là, on doit être des gens qui dispensent droitement la parole de la vérité. Faire attention de ne pas dire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Hein, Pierre? Dieu veut qu'on dispense droitement la parole de vérité, puis il veut qu'on fasse attention à ce qu'on n'aille pas en dehors de ce qui est écrit dans la vérité. D'annoncer ce qui est écrit. Point. On n'est pas là pour annoncer une religion, on n'est pas là pour annoncer d'autres choses, d'autres faux dieux. Dieu veut que quand on rouvre la bouche, qu'on parle de lui, qu'on parle de sa parole, qu'on parle des choses qui nous édifient, puis qu'on dise les vraies choses. Il faut faire attention, il faut vérifier ce qu'on entend sur Dieu si c'est vrai. Parce que là, je vous prêche des affaires. C'est-tu vrai, qu'est-ce que je vous ai dit? Bien, vous devez vérifier si c'est vrai. Où vous allez lire si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce que je vous annonce? Vous allez lire dans la Bible. Puis c'est là-dedans que ça veut dire, ah oui, ça c'est vrai, c'est écrit là. Et si vous avez remarqué, moi, mes prêches, là, la manière que je construis mes prêches, c'est toujours, je déclare une déclaration et je dis le verset que c'est écrit. De même, votre foi est basée sur la Bible et non pas ce que je dis. Puis là, revenez toujours à la parole, c'est la priorité, et non pas les discours d'un piège en jambe. Savez-vous que Dieu veut que tous les hommes dehors soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Dieu veut que tout le monde sur la terre connaisse la vérité. Wow! On a un gros mandat. Ça, c'est écrit dans 1 Timothée 2, 4. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que la vérité doit être annoncée. C'est notre job de le dire. Jésus est vivant, Jésus est le vrai Dieu, Jésus sauve, la vie éternelle, tout ça en Jésus-Christ. C'est des choses que vous devez annoncer. Gênez-vous pas de le dire à tout le monde. Et en même temps, la vérité, c'est un mode de vie. C'est pas juste une pensée. Ah, je le sais que Jésus est mort sur la croix. Ça, c'est une pensée. Mais la vérité est plus que juste une pensée. La vérité est un mode de vie. Si tu marches dans la vérité, si tu dis que tu marches dans la vérité, c'est que tu marches dans sa parole. Tu marches en communion avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Autrement dit, tu marches dans la lumière, parce que Dieu est lumière. Tu marches dans la lumière, là, tu es mutuellement en communion. Tu marches dans sa parole, tu marches dans la vérité. Donc, c'est un mode de vie, c'est quelque chose que tu vas vivre tous les jours. C'est pas quelque chose que tu as reçu il y a 20 ans. « Oh, j'ai donné ma vie au Seigneur. » Ouais, mais aujourd'hui, oh, aujourd'hui, je m'en occupe plus. Moi, là, je vais retourner dans la vie, ma vie comme que je vivais avant. Non, c'est pas de moi que ça marche. Faut que tu demeures dans la vérité. Faut que tu marches dans la vérité. Marcher dans la lumière, dans le sens que Dieu est lumière, tu marches en contact avec, puis tu marches avec lui. Il y a un verset qui nous dit, « La nouvelle que nous avons prise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a pas en lui des ténèbres. » Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La vérité, ça se pratique. C'est quelque chose que tu vas marcher tous les jours dans la vérité. C'est quelque chose que tu vas appliquer à ta vie, que tu vas chercher à vivre dans ce mode de vie-là. Enseigner où? Dans la parole de vérité. Si tu dis, moi je suis chrétien, je marche dans la lumière, puis ta vie est de marcher dans les ténèbres, dans les péchés, puis dans les choses que le monde te tente, puis t'embarques dans tout ce qui passe devant toi, t'es un menteur, c'est ça que ça dit. Puis tu pratiques pas la vérité. Si tu dis, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Demeurons dans la lumière, demeurons dans sa parole, restons en contact avec lui, et on est assuré que le sang de Jésus purifie tout péché. Ça ne nous dit pas qu'on est devenu parfait, parce que ça nous dit que le sang de Jésus va nous purifier. Il n'y a pas personne qui est arrivé à la perfection. Tu l'es en théorie, je suis un saint, je suis un parfait, à cause de la perfection de Jésus sur moi, pas parce que j'agis toujours dans la perfection. Mais je marche dans sa parole, je trébuche, je tombe, je me relève, je demande pardon, puis le sang de Jésus me purifie. C'est de même que ça marche. Puis là, en demeurant dans sa parole, tu marches dans la lumière, tu es mutuellement en communion, puis Dieu règle ça à mesure tes chutes. Il te les pardonne à mesure, parce que le sang de Jésus, son Fils, te purifie, afin que rien ne fasse un obstacle à ta communion avec ton Père. Marchons en communion, pratiquons la vérité, et on est assuré de la purification, et on est assuré aussi que Dieu veut rester en contact avec nous autres. Si je vous pose la question aujourd'hui, qu'en est-il de votre intérêt pour la vérité? Selon le premier verset, j'ai dit, puis l'autre, il dit, c'est quoi la vérité? Jésus dit, je sortis du Père pour rendre témoignage de la vérité. Puis quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Qu'en est-il de votre intérêt aujourd'hui pour la vérité? Êtes-vous une personne qui a été réveillée sur ce point de vue-là? Hey, c'est Jésus la vérité. C'est le Dieu de vérité. Sa parole est la vérité. Puis je dois marcher en communion avec eux autres. Si je suis intéressé, je fais partie des élus. Puis Jésus rajoute, dans Jean 8, 46, « Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Je vais faire un appel. Peut-être des fois, il y en a des gens qui disent, « Moi, je me sens loin de Dieu, je sens que je suis pas dedans la vérité. J'ai négligé la vérité. J'ai laissé de côté la Bible puis mon amour pour Jésus, puis je me suis refroidi. » Mais, comme on a vu, On peut revenir à la vérité puis être couvert de nos fautes, puis que le sang de Jésus nous purifie, puis qu'on est sauvé de la mort. On peut, aujourd'hui même, si vous sentez que votre cœur s'est refroidi, revenir à Jésus. On va faire une prière ensemble, puis on va demander à Dieu de venir vous purifier et d'entrer dans votre vie, puis vous redonner encore de marcher dans la lumière pour être mutuellement en communion avec lui. Père Seigneur, répétez cette prière-là. Père Seigneur, je reconnais que tu es le Dieu de vérité, le Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai. Tu t'es révélé à travers Jésus. Tu as enseigné la vérité à travers Jésus. Nous croyons en ta parole, Seigneur. Et nous reconnaissons nos péchés. Et on te demande pardon, Seigneur. On reconnaît notre froideur, notre tiédeur. Et on te demande pardon, Seigneur. Maintenant, Seigneur, purifie-nous par ton sang. Lave-nous de tous nos péchés. Remplis-nous de ta présence. Scelle-nous encore de ton Saint-Esprit. Et conduis-nous à chaque jour à ce qu'on marche en pleine communion avec toi. Merci, Seigneur, de ton cadeau à cause de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, même si vous étiez froid, Dieu n'est pas froid. Dieu vous aime et vous accueille comme l'enfant prodigue. Puis il est content, puis il vous dit, redonnez-y un anneau, redonnez-y une robe blanche, une robe neuve. Tuons le veau gras, faisons une fête. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a un party dans le ciel quand une personne sur la terre retourne. Il y a un autre passage qui dit, il y a plus de joie devant les anges de Dieu qu'un seul pécheur se repent. Il y a plus de joie devant les anges de Dieu. Qui est devant les anges? C'est Dieu, Jésus. Ils sont contents, puis ils sautent de joie, puis ils sont contents de voir un autre brebis qui venait à lui. Mais Dieu vous accueille dans la même façon, puis Dieu vous aime. Puis soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.